France Inter, le 18-20.
Nous avons tous collectivement trouvé ça d'abord ludique, les réseaux sociaux, Facebook en tête, puisque tout de suite il a séduit la planète entière. On y trouvait des amis, on y racontait les petites banalités de la vie, on y partageait quelques photos. Et puis des opinions, et puis des liens, et puis on nous a parlé des algorithmes qui vous connaissent mieux que vous-même, des pubs ciblées dès que vous allez sur un site ou sur un autre. Bref, nous avons fini par réaliser au fil du temps que nous laissions des petits bouts de nous-mêmes sans trop savoir où, mais que d'autres savent très bien s'en servir. À un moment ou à un autre, nous sommes devenus des fichiers volontaires et aujourd'hui, tout cela prend des proportions énormes avec une accélération vertigineuse. Peut-être ces derniers mois, les fake news, la campagne américaine, l'ingérence russe, Facebook et les réseaux sociaux sont devenus utiles au fil des temps, bien sûr, mais aussi peut-être dangereux. L'impact politique est là, l'influence, donc la propagande, et des geeks à très grande échelle, plus malins que les autres, qui savent très bien détourner le réseau social de son but, l'utiliser à d'autres fins. Et c'est bien peut-être ce qui se passe avec Cambridge Analytica. Alors, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que Facebook ne maîtrise plus le monstre tentaculaire qu'il a lui-même créé? Est-ce que ça veut dire que la seule issue, c'est de partir, de quitter le réseau? Peut-on leur tordre le bras, en faire un outil qui restera ludique, pratique et utile? C'est à vous de nous le dire. Ce soir, pas d'appel sur France Inter, mais le site internet franceinter.fr qui vous attend avec vos remarques, avec vos questions.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Tiens, la première question avant de présenter les invités, c'est Virginie qui l'a posée, qui nous a écrit sur franceinter.fr depuis Marseille. Où sont les fameuses données qui ont été collectées par Cambridge Analytica? Est-ce qu'il y a eu des copies? Est-ce qu'on risque de les retrouver encore ailleurs et plus tard? C'est comme ça qu'on entame ce débat dans le téléphone sonne ce soir. Et pour répondre à toutes les questions que vous nous posez par écrit sur franceinter.fr, Arthur Messot est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste à la Quadrature du Net, l'association de défense des droits et des libertés fondamentales à l'ère du numérique. Bonsoir Giuseppe De Martino, vous êtes fondateur de Loopsider, le média en ligne, et vous êtes président de l'association des services internet communautaires. Et bonjour Gwendal Legrand, vous êtes directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL. Arthur Messot, tiens, c'est pour vous. Messot, c'est pour vous la première question, celle de Virginie. Elles sont où ces données collectées?
Alors,
désormais,
d'abord, il faut se réjouir qu'on se pose enfin les questions, ce genre de questions, parce qu'il a fallu qu'on ait un sujet politique qui parle de Trump et du Brexit pour qu'on s'y intéresse. Et tant mieux, parce qu'en fait, ces questions-là, on se les pose depuis le début, et on manque un peu d'éléments concrets pour que les gens s'inquiètent vraiment. Donc là, on se pose cette question-là pour Cambridge Analytica, et tant mieux.
On manquait d'éléments disant à quoi ça sert, effectivement, de prendre les données et pour en faire quoi. Maintenant,
voilà,
effectivement,
on voit très bien, quand c'est politique, ça nous parle, mais en fait, quand c'est publicitaire, ça va être les mêmes formes de conditionnement que la population va subir, conditionnement économique, mais pas que, politique, évidemment. Facebook filtre les contenus que vous pouvez lire, hiérarchise, va mettre en avant certains contenus. Et ça a évidemment une influence sur le débat public. Alors pour répondre à la question de Virginie, les données qu'a collectées Cambridge Analytica, elles sont probablement dans les mains d'énormément d'autres applications qui de la même façon ont collecté autant d'informations, si ce n'est plus, parce que Facebook, depuis le début, permet ça. Il n'y a pas du tout un détournement de Facebook, il n'y a pas du tout quelque chose qui échapperait aux mains de Facebook. Facebook est très très clair dans ses conditions générales d'utilisation. Elle permet aux applications que vous utilisez d'accéder aux likes de vos amis.
Et on va venir effectivement à ce qu'on pourrait faire, nous, effectivement, pour éviter que tout ça ne se répande. Pour en revenir à ce que disait Giuseppe De Martino, peut-être, à ce que demandait Virginie, les journalistes, par exemple, qui ont fait des papiers sur Cambridge Analytica, en ont vu certaines de ces données. Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne comme lorsque vous donnez votre numéro de téléphone une fois à l'ancienne et qu'il se retrouve après dans des publicités ici et là et des gens qui vous appellent? Elles sont déjà partout, ces 50 millions de données, ou pas?
C'est le risque. Vous avez eu la très bonne expression. Les usagers de ces services se transforment en fichiers volontaires. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de vol. C'est vraiment chaque utilisateur qui a donné sciemment des informations, qu'il a partagées volontairement. Et au fil de l'eau, toutes ces informations continuent à se diffuser de la manière la plus large possible. Mais et on revient donc au point de départ, c'est comment empêcher de se transformer en fichier volontaire.
Mais alors avant cela, ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais? C'est-à-dire que ces données-là, maintenant qu'elles sont quelque part, on va les retrouver pendant combien de temps?
Indéfiniment.
Oui. Gwendal Legrand?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe avec Facebook, c'est que en répondant à des questions, des petits quiz que vous récupérez, non seulement vous donner des réponses à celui qui a posé le quiz et vous expliquer ce que vous pensez, mais en plus vous donner accès à des informations qui concernent vos amis. Et en fait, c'est ça la particularité du cas Cambridge Analytica, c'est qu'il y a un nombre limité de personnes qui ont répondu à des questionnaires et que, comme ils ont été en contact avec celui qui a posé la question, ils ont également donné accès à des informations qui étaient dans les profils des amis.
C'est pas spécifique à cette application-là. Hein. Toutes les applications peuvent fonctionner pareil.
Mais c'est pour ça que c'est absolument essentiel, quand vous utilisez ce type d'outil-là, de bien regarder les paramètres de confidentialité pour décider quel est le niveau de visibilité que vous allez donner aux informations qui sont dans votre profil.
Mais alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant, Arthur Mézot ? Est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est pas du hacking ?
Non,
c'est pas du siphonnage.
Non, c'est fait.
Tout ça, c'est fait de manière extrêmement légale du début jusqu'à la fin.
Non, c'est pas légal. Alors voilà. On va en parler, le souci. Alors, c'est fait de façon volontaire par Facebook. Facebook a organisé ça pour attirer des applications sur sa plateforme, pour rendre Facebook le plus intéressant pour le public. Donc, c'était un échange. Ils vendaient nos données, enfin, ils laissaient un accès à nos données en échange de services qui venaient sur Facebook, type Tinder, Airbnb, quand vous allez vous connecter via Facebook, etc. Ça permettait de faire grossir Facebook.
Donc pour comprendre, ça veut dire, alors voilà, je voudrais qu'on comprenne vraiment bien de quoi on parle. Airbnb, par exemple, pour parler de choses que les gens connaissent, à quoi ils ont accès sur ma page Facebook, par exemple ?
Alors, normalement, Facebook vous demande, au moment de vous inscrire, d'accepter que Airbnb ait accès à tout ce qui est public chez vous, à la liste de vos amis, à votre bio, à votre localisation, à ça, et aussi au like, à la liste des pages qu'ont aimé vos amis. Donc, vous, à cause de vous, quand vous vous inscrivez sur Airbnb, Airbnb peut accéder à tout ça. Alors, on ne parle pas de technique là. Là, on parle de ce que Facebook vous demande d'accepter quand vous inscrivez à Facebook. Et toute l'illégalité est là. Parce qu'en fait, Facebook ne vous laisse pas le choix. Il vous dit, pour accéder à mes services, vous devez vendre vos données personnelles à moi, à Facebook, et à tous mes partenaires. Et ça, cette obligation de vendre vos données, c'est illégal. Vos données personnelles, c'est liberté fondamentale. On ne peut pas les vendre. C'est pas des biens, c'est pas de l'argent. Vous pouvez pas céder une liberté fondamentale contre un service. C'est interdit.
Wendell Legrand, là, pour la CNIL, pour le coup, c'est effectivement interdit, cette pratique-là est purement interdite et donc sanctionnable par des gens comme vous.
Il y a une loi informatique et liberté en France qui est là depuis 1978 avec des règles à respecter. Alors, on peut traiter des données personnelles. La loi n'est pas là pour interdire le traitement de données personnelles, elle est là pour l'encadrer. Et une des choses fondamentales quand on traite vos données, c'est qu'on vous informe correctement. Donc, vous devez savoir ce qui est traité, par qui, comment et pendant combien de temps. Et l'idée, c'est de donner le contrôle à l'utilisateur pour qu'il puisse décider avec qui il partage l'information.
Giuseppe De Martino, qu'est-ce qu'on peut cocher et qu'est-ce qu'on peut décocher ? C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses qu'on maîtrise, à qui on montre un certain nombre de statuts, à qui on ouvre nos contacts, comme on l'expliquait à l'instant. Quelles sont les choses que, en revanche, on ne peut pas décocher ? Donc, de fait, dès que nous sommes sur Facebook, on le donne.
Il y a un besoin essentiel d'identification des utilisateurs, même en cas de dérapage, pour que la plateforme puisse donner des informations, par exemple, aux autorités répressives. Donc, tout ce qui est adresse mail, tout ce qui est adresse IP.
C'est interdit, ça aussi. Mais bon, on en reparle.
La carte d'identité nationale, en quelque sorte numérique, de chaque utilisateur. Mais ce qui est quand même important, pardonnez-moi d'y revenir, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain numérique. Hein. Ces services sont gratuits.
Non, ils ne sont pas gratuits, pardon, ils ne sont pas gratuits.
Attendez, ne dis pas n'importe
quoi. Wikipédia est gratuit.
Attendez,
Facebook est gratuit.
Non, Facebook, tout le monde est au courant, n'importe quel auditeur sait très bien que Facebook n'est pas gratuit.
C'est totalement faux.
On renonce à une liberté fondamentale pour accéder.
Essayez d'être rigoureux et de ne pas dire n'importe quoi.
D'accord, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec moi.
D'accord, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'effectivement, on ne paye pas pour rentrer sur Facebook.
Donc, donne pas de l'argent, d'accord. Faut pas confondre le fait de pas donner de l'argent avec gratuit.
Quelle est votre définition de payant ? On ne donne pas d'argent.
On perd quelque chose quand on va sur Facebook. On perd quelque chose. Donc
c'est pas gratuit. Sûrement vous.
D'accord,
mais il y a plein de gens qui découvrent des choses, qui s'amusent, qui se divertissent.
Vu le scandale actuel, je crois qu'on
attendez.
C'est une ouverture sur ses amis. Donc ces plateformes représentent un gain formidable en termes de liberté d'expression. Et ça, vous l'oubliez. Il y a 30 ans, il y a 20 ans qu'on n'avait pas ces plateformes.
C'était Internet. Vous confondez Internet et Facebook là. C'est Internet qui apporte la liberté d'expression.
Des réseaux en général, on ne fait pas un procès.
Facebook filtre les contenus.
On parle de la possibilité pour tout
Facebook
un chacun
censure.
Attendez,
de découvrir...
l'un après l'autre, s'il vous plaît. Je ne vois pas l'intérêt de parler en même temps, sincèrement, sinon personne ne s'entend. En quoi Facebook savait-il la fragilité de ces données ? Sait-il, lorsque Zuckerberg s'excuse, pour dire les choses clairement, il s'excuse de quoi ? Puisque vous nous expliquez que tout ça est parfaitement légal et que nous le savons même nous-mêmes lorsqu'on s'inscrit sur Facebook.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vous inscrivez sur Facebook, Par défaut, il y a un certain nombre de données qui sont échangées, qui sont rendues visibles. Et donc, la question, finalement, c'est quelle est l'étendue des données qui sont rendues visibles ? Est-ce que c'est tout ce que vous avez mis sur votre profil ? Est-ce que c'est visible par tout le monde ? Ou est-ce que c'est seulement un sous-ensemble ? Alors, au moment de Cambridge Analytica, les paramètres par défaut étaient extrêmement larges. Depuis, d'ailleurs, ils ont refermé un petit peu l'accès par défaut aux données qui sont dans les profils. Et ce qui est très important, c'est de passer suffisamment de temps quand vous vous inscrivez sur ces services-là pour aller regarder les paramètres de confidentialité. Parce qu'effectivement, sur ces réseaux, on paye comment ? On paye avec ces données, d'une certaine manière. Il y a une expression consacrée qui est « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Et oui, ces réseaux-là, ils utilisent vos données, ils savent vous profiler exactement, et ce qu'ils vont vendre, c'est ils vont vendre à des annonceurs ou à des tiers le fait qu'ils connaissent une personne avec un profil particulier, et ils vont vendre ce profil-là en disant « qui veut afficher une publicité à cette personne que je connais bien ? » Et si la publicité est ciblée, en général, la logique économique derrière, c'est de dire que l'annonceur est prêt à payer plus cher que si, évidemment, la publicité n'est pas ciblée. Et c'est comme ça qu'il se rémunère.
Eric est dans le Nord, il nous demande, peut-on fermer Facebook pour le sanctionner ? Il y a un hashtag qui court en ce moment, Delayed Facebook. Un État a-t-il le moyen de fermer le réseau ? Alors un État, c'est peut-être un peu plus compliqué, Giuseppe De Martino ?
Mais encore une fois, c'est une liberté de chacun. Chacun est libre de ne pas aller sur Facebook. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 millions de Français qui ont un compte Facebook. Il y a à peu près 20 millions de Français qui y vont tous les jours. Personne n'interdit à tous ces Français de couper leur compte. On vote avec ses pieds, on vote avec son clavier, on peut décider de ne plus être actif sur ces réseaux. Après, est-ce que la question essentielle, c'est comment apporter une pédagogie plus grande pour comprendre véritablement à quoi mène un usage un peu trop facile, un peu trop libre de ces plateformes.
Mais au-delà de la pédagogie, pardon, pourquoi ça marcherait dans ce sens-là ? C'est-à-dire il faudrait faire de la pédagogie pour éviter d'être sanctionné d'une certaine façon par les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'a pas, nous, les moyens d'obliger, de tordre le bras des réseaux sociaux ? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça ?
En fait, nous, l'État, nous...
Vous n'êtes pas à l'État, vous représentez Facebook, justement. En fait. Les citoyens, oui, ont les moyens, en tout cas.
Arthur Messot, comment on fait ?
Alors, juste pour revenir sur cette question de transparence, on nous appelle à la transparence. Si moi, je vous donne un contrat très transparent où je vous dis, vous allez travailler pour moi 16 heures par jour, contre 3 euros par jour, vous êtes dans la misère, donc vous allez accepter. C'est complètement transparent, vous avez accepté en liberté, mais non, heureusement qu'on ne fonctionne pas comme ça. On a le droit du travail.
Attendez,
on a le droit du travail pour vous empêcher de vous soumettre comme ça et de brader votre temps de travail. Pour les libertés fondamentales, les données personnelles, c'est pareil. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas accepter de vendre vos données à Facebook. Ça, c'est interdit. Alors comment on peut forcer Facebook à arrêter de faire ça ? Alors, dès le 25 mai prochain, on a une nouvelle loi européenne très importante qui va rentrer en application et qui va avoir pour effet presque principal de donner des nouveaux pouvoirs de sanction à la CNIL à hauteur des amendes de 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc ça, c'est des vrais moyens pour la CNIL d'agir. Sauf que la CNIL, on l'a vu depuis un moment, elle n'est pas forcément très très courageuse tout le temps pour s'en prendre à des choses aussi fondamentales. Alors là, c'est les citoyens qui peuvent se mobiliser, agir ensemble pour bouger la CNIL, pour mettre la pression sur Facebook avec une nouvelle arme qui va être l'action de groupe. Donc nous, à la Quadrature du Net, on peut faire des actions de groupe, on va en faire, contre Facebook évidemment, et pas du tout que sur ce sujet de Cambridge Analytica, et pas que contre Facebook, parce que là, ce qui se passe sur Facebook, c'est exactement le même modèle économique que vont avoir tous les GAFAM, Google, Apple, Amazon, ils reposent tous sur la même chose, donc il faudra s'attaquer à tous. Donc ce qu'on peut faire, nous, beaucoup plus que fermer son compte, qui est juste se protéger tout seul, et se protéger qu'à moitié, parce qu'en fait, Facebook, tel un petit renard, il va vous traquer sur tous les autres sites du moment qu'il aura un bouton like ou quoi que ce soit.
Vous allez vous demander aussi ce que deviennent les données quand on ferme son compte, les données elles sont quelque part.
Elles restent là, Facebook le dit, aussi longtemps qu'elles seront utiles à ce à quoi Facebook en a besoin, c'est-à-dire vous tracer. Et même quand vous n'avez pas de compte, Facebook s'est encore fait sanctionner il y a quelques semaines par la CNIL en Belgique, parce qu'il vous traçait, il traçait sur Internet même les gens qui n'avaient pas de compte. Donc fermer son compte, aujourd'hui, et là ce n'est pas suffisant, c'est un peu égoïste, parce qu'il faut aussi protéger les gens qui resteront sur Facebook, qui sont contraints pour des raisons familiales, professionnelles. Et la seule façon d'agir, comme toujours en politique, c'est collectivement. Et là, ça tombe bien, on a une arme toute faite, c'est l'action de groupe. Donc dans quelques semaines, la Quadrature annoncera et invitera chacun à rejoindre ses actions de groupe contre ces géants-là, pour ces problèmes-là, et pour mettre la pression sur la CNIL.
Et pas seulement en France, ceci dit, des actions de groupe, il y en a qui sont en train de se monter un peu partout, pour l'instant. Gwendal Legrand pour la CNIL.
Dans chaque pays européen, il y a l'équivalent de la CNIL. Donc il y a une CNIL, et on a déjà mené par le passé beaucoup de, d'action, de mise en conformité vis-à-vis des géants de l'Internet. Donc il y a une action de la part des CNIL européennes qui touche les grands acteurs américains, et Facebook a d'ailleurs fait l'objet de sanctions de la CNIL. Ce qui est très important effectivement en 2018, c'est que les pouvoirs de sanction des autorités changent complètement. Pendant très longtemps, la sanction maximum que la CNIL pouvait donner, c'était 150 000 euros d'amende. Depuis 2016, c'est passé à 3 millions d'euros, mais avec cette loi européenne, qui est le règlement européen sur la protection des données, on passe à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé d'une entreprise. C'est le chiffre le plus élevé qui compte. Et 4% des géants de l'Internet, c'est quelque chose de dissuasif et qui les incite, évidemment,
vous demandez effectivement si c'était réellement dissuasif, si de toute façon, même à l'époque des 150 000 euros, cette amende a déjà été payée ou pas?
L'amende a déjà été payée. Il y a un certain nombre de géants d'Internet qui ont fait l'objet d'amendes de la part de la CNIL qui montaient à 150 000 euros. 150 000 euros rapportaient leur chiffre d'affaires, c'est une goutte d'eau. Donc vraiment, ça donne un instrument nouveau qui crédibilise la question de la protection des données en Europe. Ce règlement européen, c'est vraiment un instrument fondamental qui va renforcer les droits des citoyens en Europe.
Je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie avec cette question sur franceinter.fr. Je comprends pas très bien, nous dit cet auditeur, mes données Facebook ne sont pas publiques, sauf si je le décide, puisque elles ne sont accessibles que par mes amis.
Non, c'est faux ça. Par défaut, énormément de choses sont publiques. Par défaut, toutes
soyez
les pages...
Soyez précis.
Alors, toutes les pages que vous suivez, toutes les personnes que vous suivez, toutes les listes que vous suivez, par défaut, sont publiques. Alors ça, c'est dans les conditions générales d'utilisation, vous allez le voir. Et bien ensuite, par défaut, si vous allez voir vos paramètres dans l'onglet application, vous allez dans paramètres, ensuite application. Là, vous avez la liste précochée de toutes les informations qui vont être transmises aux applications de vos amis. Là, vous allez avoir votre bio, votre localisation, votre parcours scolaire, vos centres d'intérêt, etc. Vous allez voir, tout ça est précoché par défaut, ce qui est complètement illégal, au passage.
Comment on fait Est-ce qu'on peut décocher ce par défaut?
Bien sûr. Et surtout, il faut prendre conscience que tout ce qu'on peut indiquer sur ces réseaux laisse une trace. Donc, encore une fois, pardonnez-moi d'insister, mais la pédagogie, la prise de conscience est essentiel. Et ce ne sont pas des petites associations libertaires comme la Quadrature du Net qui vont changer quoi que ce soit.
C'est la CNIL qui va sanctionner.
Très loin, alors que la CNIL a fait un travail énorme de pédagogie et nous souhaitons tous les acteurs du web rendre hommage à la CNIL et à son travail depuis 1978.
La CNIL n'est pas contre l'usage de ces instruments sur Internet. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont extrêmement utiles pour les citoyens à travers les usages numériques. Par contre, nous, ce qu'on veille, c'est on veille au fait que les gens, ce qu'on appelle les responsables de traitement, donc les entreprises qui traitent vos données, respectent la loi européenne. Et encore une fois, l'information, le consentement est quelque part derrière la notion de contrôle par le citoyen est vraiment au cœur. C'est le principe fondamental que vous trouvez dans la loi informatique et liberté.
Cette question, Dominique, on l'a déjà évoquée, ça revient très régulièrement sur franceinter.fr. Pourquoi on n'arrive jamais à se désinscrire réellement de Facebook? Comment peut-on se désinscrire pour ne plus figurer du tout sur leur fichier? Une question du même acabit qui vient de Didier Nogent-sur-Marne et qui nous dit, est-il vrai qu'il faut 90 jours en général pour supprimer réellement ce qui a été publié?
Alors ces 90 jours, c'est très précis, ça va être sur les traceurs qui vont être installés sur votre navigateur type cookie, cookie ou pixel invisible, quand vous allez naviguer en dehors de Facebook. Ça, c'est le seul chiffre que donne Facebook dans ses conditions générales d'utilisation, c'est 90 jours. En vrai, le vrai chiffre, il est bien plus long, il n'est pas donné explicitement, c'est tant que Facebook a besoin de vos informations, il va les garder. Et si vous avez mis une information publique, par exemple, en commentaire sur un article ou une émission de France Inter, normalement, ce commentaire va rester associé à votre nom jusqu'à ce que Facebook existe, ou que ce soit la page de France Inter existe. Donc en fait...
Ça, c'est moins grave.
C'est moins grave, sauf qu'en fait, Cambridge Analytica a utilisé ce genre d'informations-là, qui en fait sont très graves et révèlent énormément de choses sur vous. À quelle heure vous avez commenté, quel genre de site, à quelle fréquence, ça révèle votre opinion politique, votre état de santé psychique ou même corporel. En fait, c'est les données qui sont utilisées par le scandale-là dont on parle aujourd'hui. Donc c'est grave en fait.
Est-ce qu'il peut y avoir un avant et après quand même Cambridge Analytica pour Facebook, pas seulement pour les réseaux sociaux d'une manière générale? Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui? Je le disais tout à l'heure, il y a eu les fake news, il y a eu Trump, il y a eu tout ce qui était politique. Maintenant, il y a Cambridge Analytica. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un avant et un après? Wendal Legrand.
Je pense que ça fait prendre conscience du pouvoir que ces réseaux sociaux ont sur nous à travers les informations qui sont présentées aux individus. Et c'est en ça où il est important que tout ça soit le plus transparent possible, que les gens comprennent que les informations qui sont présentées, elles peuvent être ciblées. Donc l'information n'est pas forcément complètement neutre. Donc il faut qu'on comprenne quelles sont les données collectées, comment elles sont collectées, comment elles sont traitées derrière et comment se passe le ciblage et qu'on puisse contrôler le ciblage. Parce que derrière, c'est finalement la neutralité de l'information qui vous est présentée qui est en jeu.
Mais là, pour le coup, si on ne peut pas le faire, si c'est aussi compliqué, pourquoi on ne peut pas tordre le bras, comme je disais tout à l'heure, aux réseaux sociaux, à Facebook et à un autre, pour que ces informations dont vous parlez, elles soient automatiques et on les ait tout de suite, en fait?
Alors, c'est ce qu'on fait. Hein. Nous, on passe notre temps à dialoguer avec les géants d'Internet pour s'assurer qu'ils respectent correctement la loi. Après, les discussions, c'est souvent les mêmes sujets qui remontent, c'est-à-dire les paramètres par défaut. L'enjeu pour ces sociétés, si vous voulez, c'est de partager un maximum d'informations, parce que c'est comme ça qu'elles tirent la valeur des données. Donc, vous vous inscrivez, et il y a de plus en plus de personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme, et plus elles vont partager d'informations, plus ça va représenter de valeur pour la plateforme. Derrière, l'intérêt de l'individu pour protéger sa vie privée, ça va plutôt être de partager uniquement les informations qui sont nécessaires avec son réseau d'amis. Et c'est cette tension qu'il faut constamment réconcilier. Donc nous, le souci qu'on a au niveau de la CNIL, quand on examine la manière dont fonctionnent ces services, c'est est-ce que les personnes sont bien informées, est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles font, et est-ce que les paramètres par défaut sont suffisamment protecteurs ou pas.
Alors, en fait, c'est vraiment
un des enjeux qu'on a dans le cas Cambridge Analytica, à savoir que quand on s'inscrit sur Facebook et qu'on a une activité sur Facebook, on peut révéler un certain nombre de choses sur ses préférences politiques, ce qui est une donnée sensible au sens de la loi. Et donc ça, c'est des choses qui sont particulièrement bien protégées.
En fait, la CNIL va heureusement bien plus loin que ça, et ça n'arrête pas juste à l'information et au contrôle des utilisateurs. Il y a eu en décembre dernier, une décision extrêmement importante de la CNIL qui a mis en demeure WhatsApp, parce qu'en fait, WhatsApp vous oblige, pour utiliser les services, d'accepter que vos données soient transférées à Facebook. Mm-hmm. Facebook, c'est la maison mère de WhatsApp. Et la CNIL a dit, si vous êtes obligé d'accepter un traitement sur vos données, un transfert qui n'est pas utile au service WhatsApp, eh bien alors votre consentement, vous le donnez de façon non libre et non valide. Donc ce transfert de données vers Facebook est interdit et illicite et a mis en demeure WhatsApp d'arrêter. Donc là, on a vraiment la CNIL, une position extrêmement intéressante et assez nouvelle et courageuse qui concrétise ce que j'ai dit tout à l'heure, que les données personnelles ne sont pas des marchandises. On ne peut pas les vendre. Et si on vous oblige à renoncer à votre vie privée pour accéder à un service, c'est interdit. Il faut fermer ça. Donc on n'est pas juste dans le contrôle, on n'est pas juste dans la transparence. On est aussi à certaines formes et un modèle économique qui est interdit par la CNIL aujourd'hui et qui est reconnu comme étant illégitime. Et tant mieux, parce que sinon, ça voudrait dire que seuls les plus riches qui peuvent encore se payer leur vie privée en auraient encore. Ça, la CNIL l'a bien compris et du coup protège les gens qui sont sous la contrainte, cèdent des choses sans lesquelles ils n'auraient jamais cédé.
Mais vous avez parlé, Gwendal Legrand, tout à l'heure de changer les règles par défaut, les paramètres par défaut. En fait, est-ce que ça suffit réellement? Est-ce qu'on a envie de dire c'est aussi simple que ça, changer les paramètres par défaut? Et déjà, on aura fait un gros progrès?
C'est essentiel de le faire. C'est pas forcément simple, parce que justement, la question, c'est l'ergonomie du service, et c'est pour ça que sur le site de la CNIL, vous avez tout un tas de tutoriels qui vous expliquent comment utiliser ces services numériques et vous protéger correctement. Après, le cas WhatsApp, il est très intéressant, parce que quelque part, c'est le deuxième étage de la fusée. Ouais. Donc, si vous voulez, je suis utilisateur de Facebook, je suis utilisateur de WhatsApp.
Pour rappeler aux gens qui nous écoutent,
Facebook, c'est le réseau social.
Et WhatsApp, mais qui appartient à Facebook.
C'est une messagerie. Non, initialement, ça n'appartenait pas à Facebook.
Initialement, non. Mais
donc, initialement, je suis client de WhatsApp et de Facebook, et j'ai certaines activités vis-à-vis de WhatsApp et certaines activités vis-à-vis de Facebook. Et par le mécanisme.
Excusez-moi, que je comprenne bien. Initialement, oui, mais on ne peut pas ignorer que l'un appartient à l'autre.
J'y viens. Par le mécanisme de fusion-acquisition, donc j'achète Facebook un jour, achète WhatsApp, et l'idée, c'est qu'ils veulent croiser les données des utilisateurs de WhatsApp et des utilisateurs de Facebook.
Et
ça démultiplie le problème. Oui. Ça démultiplie le problème.
Aussi.
Donc, au fur et à mesure que ces géants d'Internet rachètent d'autres entreprises de l'écosystème numérique, ils ont la possibilité de combiner énormément d'informations et ça, évidemment, ça pose des questions essentielles en matière de protection de la vie privée parce que c'est toute la segmentation de votre vie numérique qui, d'un seul coup, est réconciliée à travers ce rachat de société. Et donc, Facebook, WhatsApp, c'est un cas justement sur lequel la CNIL a agi, a mis en demeure Facebook et WhatsApp de cesser le partage de données, quoi, de respecter la loi dans le cadre du partage de données. Et il y a des actions de mise en conformité vis-à-vis de ces acteurs-là également.
Giuseppe De Martino.
Oui, tout le mal originel, hein, en quelque sorte, vient du fait que ces sociétés qui sont à l'origine de l'Internet sont américaines.
Quelles sociétés à l'origine de l'Internet? Facebook n'est pas Internet.
L'Internet est une invention américaine. Hein.
Elle est collective, voilà. Pas du tout, elle est collective.
Internet est né aux États-Unis.
À un moment précis, mais c'est collectif, les inventions, on ne les fait pas tout seul dans son coin, c'est pas une personne.
Toutes les grandes entreprises d'Internet sont américaines.
Mais c'est pas une entreprise Internet à la base.
Vous étiez au péché originel.
Voilà, si monsieur me laisse passer. Facebook et Internet. Si l'utopie me laisse parler. La question des données personnelles est beaucoup plus sensible en Europe qu'aux États-Unis. Les géants de l'Internet sont américains aujourd'hui, et donc le travail compliqué des régulateurs des données en Europe sont de se rassembler, de créer ce dialogue et de faire comprendre qu'on ne peut pas agir de la même façon dans les maisons-mères et dans les territoires où ces sociétés se sont lancées au départ que en Europe. C'est pour ça qu'il y a encore une fois un énorme travail de pédagogie à faire par ces plateformes, mais aussi, je pense, au niveau de l'éducation nationale, est-ce que nos enfants sont sensibilisés à la façon dont ils s'inscrivent sur ces plateformes? Est-ce qu'on leur apprend véritablement à ne pas partager avec tous leurs données? On n'en est pas certain aujourd'hui.
Et c'est là, effectivement, qu'il y a quelque chose que moi, j'ai du mal à suivre, en fait. Il faut donc expliquer aux enfants, attention, c'est dangereux, au lieu d'essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas sur un endroit dangereux. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme si on suggérait de traverser à pied par l'autoroute, au lieu de traverser sur le passage clouté, quitte à obliger la ville à faire un passage clouté.
Que vous permettez à vos enfants d'aller chercher le pain, vous les accompagnez, vous leur apprenez à traverser la route, à traverser au feu, à ne pas voler de bonbons, à donner de l'argent, à récupérer la monnaie. C'est exactement la même chose en ligne. Il faut accompagner ses enfants, il faut leur apprendre les bonnes manières, les bonnes pratiques, et qu'ils ne tombent pas dans les pièges qui peuvent exister, comme dans la vraie vie.
Et c'est ce qu'on disait, Gwendal Legrand, dans l'avant-après, en fait. Peut-être que désormais, il y a des choses qu'on a apprises qui feront que les réseaux sociaux seront...
Tout le monde apprend à se servir progressivement de ces outils numériques. Après, il y a un double travail à faire. Il y a s'assurer que ces acteurs-là respectent la loi. Oui, et donc, pour prendre l'analogie de tout à l'heure, il faut s'assurer qu'on construise des passages cloutés, quelque part. Mmh. Et en même temps, après, il faut éduquer les gens pour qu'ils utilisent ces passages cloutés. Donc, il faut que les deux existent, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'action de la CNIL, elle concerne les deux. On a des actions de mise en conformité vis-à-vis des grands acteurs Internet, où on va vérifier s'ils respectent bien les règles, s'ils informent les gens correctement, s'ils effacent les données quand ils doivent les effacer, s'ils traitent uniquement les données qui sont nécessaires pour le service, parce que tous ces principes-là sont dans la loi. Et puis, en même temps qu'on fait ça, il y a des actions d'éducation au numérique. On a beaucoup d'actions de sensibilisation que vous trouvez sur le site de la CNIL, par exemple, avec des tutoriels pour paramétrer son compte Facebook, pour prendre juste l'exemple de cette société-là.
Donnons un exemple. 30 millions de Français qui vont sur Facebook et sur les autres plateformes, on les a pas assez mentionnées, YouTube, LinkedIn et les autres. Combien de visiteurs sur le site de la CNIL? Quelques dizaines de milliers. Donc, ça ne suffit pas, cette action formidable de la CNIL, mais il faut également se mobiliser tout un chacun au quotidien.
En vrai, cette question d'éducation, juste, il ne faut pas en faire trop. Le numérique, on ne va pas comprendre. Autour de la table, personne ne comprend vraiment comment ça marche, tout ça. Et moi compris. Hein. Mm-hmm. Et c'est normal. C'est des choses complexes. La façon dont on est ciblé, les fichages sur nous, c'est des choses beaucoup trop complexes. Il ne faut pas penser, il ne faut pas rêver qu'un jour, on va comprendre et qu'on sera à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que la loi est là, pour nous protéger, pour nous empêcher de prendre des risques qu'on ne comprend pas, pour nous interdire à la limite d'aller sur Facebook alors qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Alors justement, tiens, on a cette question de Jean-Marc à Paris qui nous dit « Moi j'ai une page Facebook, mais je n'y mets presque rien et je ne vais que regarder celle des autres. » Est-ce que le fait de ne pas être actif protège réellement, ou ça ne suffit pas?
Il est actif. Il dit bien ce qu'il fait. Il va regarder la page des autres.
Même si on ne like pas,
mais
par exemple.
Bien sûr. Pour Facebook, ça ne change rien, ça. Facebook, il sait très bien ce que vous faites, et ça, ce n'est pas décochable. Hein. La surveillance qu'a Facebook sur vous, qui est 100 fois plus forte que celle de Cambridge Analytica, celle-là, vous ne pouvez pas la décocher. Et peu importe que vous likez ou pas, il voit les pages que vous allez voir, à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure vous déconnectez, et ça suffit largement pour savoir quel est votre profil psychologique, votre métier, votre âge, etc.
Une autre question qui vient de Morgane, qui habite en Vendée. Comment fonctionne le nouvel algorithme de Facebook et qu'est-ce que ça change? Un algorithme qui a d'ailleurs été légèrement modifié entre sa première sortie et puis désormais.
Alors, Facebook change régulièrement son algorithme, et la dernière fois que Facebook a annoncé un changement, c'était pour favoriser les contenus venant de son entourage plutôt que ceux des médias comme France Inter. Les résultats aujourd'hui font qu'il peut y avoir un l'amalgame avec la notion même de média. Est-ce que vos amis ne sont-ils pas la principale source d'information que vous êtes amené à préférer par rapport aux sources officielles.
Et dont les critiques disaient finalement que la monnaie de la pièce, si vous voulez, là-dessus, c'est qu'on tourne en rond, en fait, autour des mêmes idées, et donc éventuellement aussi des mêmes complots, des mêmes thèses, etc.
Oui, bien sûr.
Mais encore une fois, Facebook n'est pas un service public, personne n'est obligé d'y aller.
Alors certes.
Donc,
il faut comprendre comment il fonctionne.
Continuer à lire, continuer à écouter la radio, vivez.
Ah bah oui, non mais ça, j'imagine que les gens font les deux.
Mais juste, c'est important ce que vous dites, parce que quand Facebook, son grand argument qu'on a entendu, là, c'est on est vecteur de liberté d'expression. Il faut comprendre que Facebook filtre ce que vous lisez. Le but de l'algorithme, c'est de vous empêcher de voir certaines choses et d'en mettre en avant d'autres. Ça, la liberté d'expression, c'est pas ça. On est en dehors. La liberté d'expression, telle que, qu'elle est utile, hein, c'est que tout le monde peut accéder au débat sur un pied d'égalité. Sur Facebook, les contenus sont filtrés en fonction, dans le but de vous vendre du temps de cerveau disponible. Facebook, c'est comme la télé, son métier, c'est de vous proposer du contenu qui va vous faire rester devant pour bien vous cibler et vous montrer la bonne publicité. Ça, en termes de liberté d'expression, c'est une calamité. Facebook ne veut pas que tout le monde accède au débat de la même façon sur un pied d'égalité. Il va mettre en avant les contenus qui vont vous faire rester.
Vanessa est à Cherbourg, nous écrit sur franceinter.fr, nous dit comment peut-on croire Mark Zuckerberg quand il dit qu'il va corriger ses erreurs? Comment peut-on restreindre, c'est bien la question qu'on posait tout à l'heure, l'accès aux données comme il l'annonce?
Avec des sanctions, des fortes sanctions.
Mm-hmm. Le moyen, c'est ça?
C'est l'argent. Le seul moyen.
Bah, c'est clair que ces sociétés cherchent à gagner de l'argent. Donc, comme c'était expliqué tout à l'heure par Arthur, finalement, quand vous allez sur ces réseaux sociaux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à garder l'utilisateur captif. Donc, montrer toutes sortes de contenus qui vont faire en sorte que l'utilisateur reste sur son téléphone. Parce que plus longtemps vous restez sur la plateforme, et plus on va vous afficher de publicité, et donc plus vous allez générer des revenus pour la plateforme. Donc, derrière, c'est vraiment l'enjeu de du respect de la loi. C'est pas interdit d'afficher de la publicité, c'est pas interdit de collecter des données, c'est pas interdit d'offrir ce type de service-là, et encore une fois, ça peut rendre beaucoup de services aux gens. Il y a des gens qui sont très contents d'utiliser ce type de service, et il s'agit absolument pas de l'interdire. Il s'agit juste de le faire en respectant les règles qui sont dans la loi européenne, qui est bien connue et qui protège le citoyen quand elle est correctement appliquée.
Est-ce que le fait que Facebook commence à perdre un peu, c'est très léger, mais un peu quand même, un certain nombre de d'adhérents, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'utilisateurs, parce que peut-être la moyenne d'âge est en train de changer, est-ce que tout ça peut modifier un certain nombre de pratiques ou pas du tout?
Non, les gens ils partent sur WhatsApp, Instagram, Facebook, ils sont pas bêtes, hein, ils se diversifient, et puis ils n'ont pas besoin d'avoir autant d'utilisateurs non plus.
Mais se diversifie peut-être en croyant que c'est différent de Facebook, alors que de fait c'est pareil, non?
Oui, non, mais Facebook a investi, comme tous les GAFAM, ils n'ont pas un cheval de course sur lequel ils restent, hein, ils ne sont pas du tout stupides. Et c'est le problème. C'est le problème, c'est que là, on se focalise sur Facebook aujourd'hui, mais le problème est généralisé complètement à tous, pas qu'à Facebook, à tous les GAFAM.
J'aimerais que vous nous expliquiez, nous demande cette auditrice sur franceinter.fr, comment il est possible d'utiliser des données personnelles pour influencer un vote, parce que jusqu'à nouvel ordre, la publicité elle-même nous assaille à travers tous les médias et nous sommes libres d'y être sensibles ou non. Est-ce qu'on sait, alors c'est compliqué statistiquement j'imagine, là par exemple Cambridge Analytica, 50 millions de fichiers, est-ce qu'on sait quand on a 50 millions de données, combien on peut toucher réellement de personnes? Est-ce que là il y a 1% des gens qui effectivement iront dans la direction qu'on leur a indiquée, 2%, 10%, 20%, est-ce qu'on sait ça ou pas?
Je suis incapable de vous répondre, c'est ces personnes qui ont trituré les données, qui les ont revendues, qui pourraient vous donner un début de réponse, mais ce n'est pas une notion scientifique.
Non, mais si elles l'ont fait, c'est que le pourcentage existe.
C'est plus que ça permet.
Et la promesse.
Peut-être sans doute que ça permet d'identifier les indécis et ceux sur lesquels ça vaut le coup d'investir entre guillemets pour être capable de forcer leur décision dans le cadre du vote politique. Donc un profil détaillé sur une personne, ça va révéler beaucoup de choses sur ses habitudes de vie, sur ses préférences politiques, sur ses préférences sexuelles, et ainsi de suite. Et en fait, derrière, si vous donnez ça à des gens qui triturent les données, ils vont savoir si vous êtes extrêmement décidé et vous changerez pas d'avis, ou si vous êtes un petit peu indécis. Et ensuite, on va choisir finalement d'afficher de la publicité à ceux qui sont un petit peu indécis pour essayer de changer leur opinion et l'amener du côté de celui qui affiche la publicité.
C'est pas qu'en matière, vous faites bien d'utiliser l'expression publicité, c'est pas qu'en matière politique, hein. La publicité, elle fonctionne exactement pareil. Et pas que la publicité, aussi la mise en avant de certains médias, la mise en avant de certaines news plus ou moins fake, tout ça est fait avec la même logique qu'on va la présenter aux gens indécis, aux gens qui hésitent et qu'on ne propose pas la publicité aux gens. C'est pas que des problèmes de politique, c'est des problèmes de comportement économique ou de comportement de société en général. Et ça, Facebook le fait et est fier de le faire. Quand ça touche Trump et le Brexit, ben Zuckerberg il a un peu honte, mais pour tout le reste, d'influencer, de conditionner les gens, il est fier de le faire, il le revendique.
Et ça donne une catégorisation très fine des personnes, finalement, ces réseaux sociaux.
J'ai la chance de présider un média qui, récemment, grâce à Facebook, a pu mettre en avant une vidéo d'un jeune inventeur bordelais qui a mis en place un igloo au profit des SDF, un igloo en polymère. Nous avons pu toucher 5 millions de personnes. Si j'avais été un petit média dans mon coin, en dehors des plateformes, j'aurais touché 2000, 3000 personnes. Donc, il faut quand même ne pas oublier que l'algorithme que vous vouez aux gémonies permet aussi de porter des belles images, de porter des messages d'espoir et globalement positifs.
Héloïse qui nous pose cette question sur franceinter.fr. Y a-t-il d'autres Cambridge Analytica quelque part dans la nature en ce moment?
Facebook d'abord, premier. Facebook,
la quadrature du net, sans doute.
Ah non, nous, on ne fait aucun traçage, on n'a pas besoin, on n'a que des dons.
On ira auditer.
Avec plaisir, voilà, aucun souci.
Est-ce qu'il y a d'autres, très sérieusement, est-ce qu'il y a d'autres Cambridge Analytica?
Toutes les applications de Facebook fonctionnent sur la même façon. Google est sûrement un petit Cambridge Analytica, enfin le plus gros. Hein. Apple et plutôt iOS et Android vont fonctionner de la même façon un petit peu. Quand vous les utilisez, vous êtes obligé d'utiliser un identifiant unique qui va permettre à toutes les applications que vous allez utiliser sur vos smartphones de vous cibler dans vos usages. Donc c'est la même logique.
Les anti-américains ce soir, on ne mentionne que des sociétés américaines. Ce qu'on peut combiner, les entreprises russes, certains médias, donc, je ne sais pas si on peut leur donner ces noms russes, il y a des sociétés en Asie également qui jouent sur les pratiques comportementales des internautes.
Et européennes aussi, hein, faut le dire aussi, il y a aussi des européens.
Mais les applications que vous installez sur les réseaux sociaux ou que vous installez sur votre téléphone, elles accèdent à certaines informations. Quand vous installez une appli sur votre téléphone, elle vous demande l'autorisation d'accéder à certaines données qui sont stockées dans le téléphone. Le modèle derrière, c'est bien l'exploitation de ces données-là, soit pour vous afficher des publicités, pour vous catégoriser, et ainsi de suite. C'est vraiment la même logique, en fait, qu'on va retrouver aussi dans cet univers.
Est-ce que vous avez... Pardon, allez-y.
C'est très bien qu'on ait eu qu'il y ait ce scandale-là, quand même, parce qu'il faut que les gens, on leur parle d'une chose très concrète qui va être des élections politiques influencées, et tout d'un coup, les gens vont réaliser, en fait, on a influencé tous les jours, pas que dans nos choix politiques, mais partout. Donc c'est bien que la question, elle est bien posée. Les gens, ils s'attendent à voir la même chose que Cambridge Analytica apparaître, mais peut-être que si on leur dit, en fait, toutes les autres applications, même si elles n'ont pas d'influence sur les élections, elles fonctionnent paraître, et fonctionnent pareil, les gens vont voir les liens. Ils vont commencer à se dire, en fait, c'est pas qu'un problème politique, c'est pas qu'un problème d'élection politique.
Mais est-ce qu'il risque pas d'y avoir un nettoyage, justement, où chacun va justement faire le tri pour éviter d'être dans la même déconvenue
que Zuckerberg l'est aujourd'hui. C'est essentiel. La prise de conscience est le début avec, comme on l'a tous indiqué, des paramétrages plus restrictifs.
L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est allé sur l'Internet vers de plus en plus de personnalisation. Alors c'est dans votre flux d'informations sur Facebook qui est personnalisé, c'est en fonction des amis que vous avez, c'est en fonction des contenus que vous avez visités, c'est en fonction des sites que vous êtes allé voir, mais c'est vrai aussi quand vous surfez sur des sites d'information où c'est des publicités personnalisées qui sont aussi affichées en fonction du profil que vous avez. Et donc réellement aujourd'hui le modèle économique de l'internet c'est ça, c'est de profiler les gens de manière extrêmement précise, d'un certain nombre de sociétés sur internet, c'est de profiler les gens de manière extrêmement précise pour afficher de la publicité la plus ciblé possible. Non,
c'est pas tout à fait vrai. Alors, vraiment, faisons attention de ne pas résumer Internet aux GAFAM. Un des sites les plus visités et les plus importants au monde, Wikipédia, est gratuit et ne vous filtre pas.
Très lié à la quadrature.
Merci, avec plaisir. Et donc, il faut pas oublier, ne résumons pas Internet à des grosses sociétés qui sont là pour nous exploiter. Il y a énormément de choses géniales sur Internet qui ne fonctionnent pas comme ça.
Et tiens, je voudrais donner quand même cette dernière remarque sur franceinter.fr. Elle nous vient de Saint-Lô. Je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais qui revient à tous les débats qu'on a pu avoir aussi sur liberté et sécurité, qui nous dit ce que Facebook et Google me proposent me convient car c'est adapté à mon profil dans un monde où on prône une personnalisation des services et comme je n'ai rien à cacher, eh bien, il n'y a pas de problème et ce sont des choses qu'on entend.
Alors, est-ce que cette dame peut nous envoyer son mot mot de passe de son compte mail à la quadrature. On sera ravis de voir si elle a rien à cacher. Ce sera
3,
très 2, rigolo.
1, sûrement. Et j'ai une petite dernière. Gwendal Legrand, vous avez un compte Facebook ou pas?
Oui.
Et vous avez un compte Facebook, Giuseppe De Martino?
Bien sûr, 2000 amis.
Arthur, j'ai pas envie de vous demander. Arthur, mais vous en avez un?
Maintenant, si, parce qu'il faut pas laisser ces gens-là tout seuls.
Facebook.
Il faut défendre ces gens, il faut les protéger.
Je ne crois pas.
Allez, continuez à écouter la radio, c'est bien aussi. Portez-vous bien.
Exactement.